Livre des nombres. Étude sur le chapitre 19. Nous avons maintenant sous les yeux une des parties les plus importantes du livre des nombres. Elle nous présente l'institution profondément intéressante et instructive de la génisse rousse. Dans les 7 premiers chapitres du Lévitique, nous avons un exposé détaillé de la doctrine du sacrifice. Et cependant, il n'y est fait aucune allusion à la génisse rousse. Pourquoi cela ? Que devons-nous apprendre du fait que cette belle ordonnance est présentée dans ce livre et nulle part ailleurs? Nous croyons que ce fait fournit une nouvelle et frappante preuve du caractère distinctif de notre livre. La génisse rousse est un type qui appartient éminemment au désert. Elle était la ressource de Dieu contre les souillures du chemin. Elle typifie la mort de Christ comme purification des péchés et comme réponse à tous nos besoins pendant le pèlerinage à travers un monde corrompu pour arriver à notre patrie céleste. C'est donc une figure fort instructive et qui nous dévoile une vérité des plus précieuses. Veuille le Saint-Esprit qui nous en a donné la connaissance, l'expliquer et l'appliquer à nos âmes. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron disant, c'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé en disant, parle aux fils d'Israël et qu'ils t'amènent une génisse rousse sans tare qui n'ait aucun défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Verset 1-2. Si nous contemplons le Seigneur Jésus avec l'œil de la foi, nous n'y voyons pas seulement celui qui était sans tache dans sa sainte personne, mais aussi celui qui ne porta jamais le joug du péché. Le Saint-Esprit est toujours un gardien jaloux de la gloire de Christ, prenant plaisir à le présenter à l'âme dans toute son excellence et sa valeur suprême. Voilà pourquoi chaque type et chaque image destinée à le présenter témoigne toujours aussi de cette extrême sollicitude. Par la génisse rousse, nous apprenons que notre Sauveur béni n'était pas seulement, quant à sa nature humaine, intrinsèquement pur et sans tache, mais que, quant à sa naissance et à ses relations de famille, il s'était aussi maintenu parfaitement maître de toute trace et de toute apparence de péché. Jamais le joug de l'iniquité ne pesa sur son cou. Quand il parlait de son joug, Matthieu 11, verset 29, c'était le joug d'une soumission implicite à la volonté du Père en toutes choses. Ce fut le seul joug qu'il porta et qui ne le quitta jamais un seul instant, depuis la crèche où, faible et petit enfant, il reposait, jusqu'à la croix où il expira comme victime. S'il monta sur la croix pour expier nos péchés et pour poser le fondement de notre parfaite purification de tout péché, il le fit comme celui qui n'avait jamais, en aucun temps de sa vie sainte, porté le joug du péché. Il était sans péché, et comme tel, il était parfaitement capable de faire la grande et glorieuse œuvre de l'expiation, en laquelle il n'y est point de tare et sur laquelle on n'est point posé le joug. Ces deux expressions sont employées par le Saint-Esprit pour montrer la perfection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était non seulement sans tache intérieurement, mais extérieurement libre de toute trace de péché. Ni dans sa personne, ni même dans ses relations, il ne fut, en quelque manière que ce soit, assujetté aux exigences du péché ou de la mort. Il s'initia en toute réalité à nos circonstances et à notre condition, mais il n'y avait pas en lui de péché, et le joug n'en pesa point sur lui. Et vous la donnerez à Éléazar le sacrificateur, et il l'amènera hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Verset 3. Nous avons dans le sacrificateur et dans la victime un double type de la personne de Christ. Il était à la fois victime et sacrificateur. Cependant, il n'entra pas dans ses fonctions sacerdotales avant que son œuvre comme victime fût accomplie. C'est ce qui expliquera l'expression de la fin du verset 3, « On l'égorgera devant lui ». La mort de Christ fut accomplie sur la terre. Elle ne pouvait point, en conséquence, être représentée comme l'acte de la sacrificature, puisque le ciel, non la terre, est la sphère de son service de sacrificateur. L'apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, déclare expressément comme le résumé d'un raisonnement des plus complets que « Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices, c'est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, puisqu'il y a ceux qui offrent des dons selon la loi. Hébreux 8, verset 1-4. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré, une fois pour toutes, dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Chapitre 9, versets 11, 12 et 24. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Chapitre 10, verset 12. Ces passages mis en regard de Nombre 19, verset 3 nous enseignent deux choses. Savoir que la mort de Christ n'est pas présentée comme l'acte particulier et ordinaire de son ministère sacerdotal, et de plus que le ciel, non pas la terre, est la sphère de ce ministère. Il n'y a rien de nouveau dans ces assertions. D'autres les ont avancées à plusieurs reprises. Mais il est important de noter tout ce qui tente à démontrer la perfection et la précision divine des Saintes Écritures. N'est-il pas profondément intéressant de trouver une vérité qui brille avec éclat dans les pages du Nouveau Testament, impliquée dans quelque ordonnance ou cérémonie de l'Ancienne Alliance? De telles découvertes sont toujours bienvenues pour un disciple de la parole. La vérité sans doute est la même où qu'on la trouve, mais lorsque, tout en s'offrant à nous avec un éclat suprême dans le Nouveau Testament, elle nous apparaît divinement préfigurée dans l'Ancien, alors, outre que la vérité est ainsi confirmée, c'est l'unité du livre entier qui nous est démontrée et prouvée. Le lieu où s'accomplissait la mort de la victime doit encore attirer notre attention. Il l'amènera hors du camp. Non seulement le sacrificateur et la victime sont identifiés et ne forment qu'un seul type de Christ, mais il est ajouté « et on l'égorgera devant lui ». Parce que la mort de Christ ne pouvait pas être représentée comme un acte de la sacrificature. Cette merveilleuse exactitude ne peut se trouver que dans un livre dont chaque ligne provient de Dieu lui-même. S'il eût été écrit « Il l'égorgera », le chapitre 19 des Nombres se serait trouvé en désaccord avec l'Épître aux Hébreux, tandis qu'ici l'harmonie du volume éclate glorieusement. Puissions-nous recevoir la grâce de la discerner et d'en jouir. En réalité, Jésus a souffert hors de la porte. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, verset 12. Il prit une position de séparation absolue, d'où sa voix s'adresse à nos cœurs. Ne devrions-nous pas considérer plus sérieusement la place où Jésus mourut? Pourrions-nous nous contenter de recueillir les bénéfices de sa mort sans chercher à avoir communion avec lui dans sa réjection? Ah, Dieu ne plaise! Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre. Un renvoi. Le camp dans ce passage se rapporte en principe au judaïsme, mais il a une très remarquable application morale à chaque système de religion établi par l'homme et gouverné par l'esprit et les principes du présent siècle mauvais. Je reprends. Il y a une immense puissance dans ces paroles. Elles devraient exciter tout notre être moral et spirituel à rechercher une identification plus complète avec notre Sauveur rejeté. Le verrions-nous mourir hors de la porte et voudrions-nous recueillir les bénéfices de sa mort en restant dans le camp, sans porter son opprobre? Chercherons-nous une demeure, une place, un nom, une position dans ce monde d'où notre Seigneur et Maître a été rejeté? Désirerons-nous prospérer dans un monde qui, encore aujourd'hui, ne tolérerait pas ce bien-aimé auquel nous devons notre félicité présente et éternelle? Aspirerons-nous aux honneurs, à la position, à la richesse, ici-bas où notre Maître n'a trouvé qu'une crèche, une croix, une tombe empruntée? Que le langage de nos cœurs soit loin de nous cette pensée. Et puisse le langage de notre vie être loin de nous une telle chose. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, donner une réponse plus entière à cet appel de l'Esprit, sortez.
Lecteurs chrétiens, n'oublions jamais que lorsque nous considérons la mort de Christ, nous voyons deux choses, savoir la mort d'une victime et la mort d'un martyr. Une victime pour le péché, un martyr témoin pour la justice. Une victime sous la main de l'homme. Il souffrit pour le péché afin que nous ne souffrions jamais, que son nom en soit à jamais béni. Mais ses souffrances comme martyr, ses souffrances pour la justice sous la main de l'homme, celles-là, nous pouvons les partager. Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens 1, verset 29. C'est un don positif d'avoir à souffrir pour Christ. L'estimons-nous ainsi? En contemplant la mort de Christ telle qu'elle est typifiée dans l'ordonnance de la génitrice, nous voyons non seulement la suppression complète du péché, mais aussi le jugement du présent siècle mauvais. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, verset 4. Les deux choses sont ici réunies et nous ne devrions jamais les séparer. Nous avons le jugement du péché de sa racine à ses dernières ramifications, puis le jugement de ce monde. Le premier donne un parfait repos à la conscience travaillée, tandis que l'autre délivre le cœur des influences séductrices du monde dans leurs formes les plus multipliées. Celui-là purifie la conscience de tout sentiment de culpabilité, celui-ci brise les chaînes qui lient le cœur au monde. Nous rencontrons souvent des âmes sérieuses qui ont été amenées sous la puissance convaincante et vivifiante du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas encore connu, pour le repos de leur conscience troublée, la pleine valeur de la mort expiatoire de Christ, comme abolissant à jamais tous leurs péchés et les rapprochant de Dieu sans une tache sur l'âme ou dans la conscience. Si tel est l'état actuel du lecteur, il n'a qu'à considérer la première partie du verset que nous avons cité. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est une affirmation des plus bénies pour une âme troublée. Elle résout toute la question de nos péchés. Il est vrai que Christ s'est donné lui-même pour mes péchés. Il ne me reste qu'à me réjouir dans le fait précieux que mes péchés sont tous effacés. Celui qui prit ma place, qui se chargea de mes péchés, qui souffrit pour moi, est maintenant à la droite de Dieu couronné de gloire et d'honneur. Cela me suffit. Mes péchés sont ôtés pour toujours. S'il ne l'était pas, Christ ne serait pas là où il est actuellement. La couronne de gloire qui orne son front sacré est la preuve que mes péchés sont parfaitement expiés, en conséquence une paix parfaite est mon partage, une paix aussi parfaite que l'œuvre de Christ peut la rendre. Mais alors n'oublions jamais que la même œuvre, qui a pour toujours enlevé nos péchés, nous a retirés hors de ce présent siècle mauvais. Le texte a même la signification d'arracher avec force ou avec puissance du présent siècle mauvais. Les deux choses vont ensemble. Christ m'a non seulement délivré des conséquences de mes péchés, mais aussi de la puissance actuelle du péché ou des exigences et des influences de ce système que l'Écriture appelle « le monde ». Tout ceci, cependant, ressortira plus pleinement en poursuivant l'examen de notre chapitre. Et Éléazar, le sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt et fera aspersion de son sang sept fois droit devant la tente d'assignation, verset 4. Nous avons ici le solide fondement de toute véritable sanctification. Le type que nous avons sous les yeux traite seulement une question de sanctification pour la pureté de la chair, Hébreux 9, verset 13. Mais nous devons voir l'antitype au-delà du type, la substance ou le corps au-dessus de l'ombre. Dans la septuple aspersion du sang de la génitrice devant la tente d'assignation, nous avons une figure de la présentation parfaite du sang de Christ à Dieu comme le seul lieu de rencontre entre Dieu et la conscience. Le nombre 7, comme nous le savons, exprime une perfection divine. Ici, c'est la mort de Christ en propitiation pour le péché, présenté à Dieu dans toute sa perfection et accepté comme tel par Dieu. Tout repose sur ce principe divin. Le sang a été répandu, puis il a été présenté à un Dieu saint comme une parfaite expiation pour le péché. Ceci, reçu simplement par la foi, doit délivrer la conscience de tout sentiment de culpabilité, de toute crainte de condamnation. Il n'y a rien devant Dieu que la perfection de l'œuvre expiatoire de Christ. Le péché a été complètement effacé par le précieux sang de Christ. Croire cela, c'est entrer dans un parfait repos de conscience. Le lecteur doit remarquer qu'il n'y a aucune autre allusion à l'aspersion du sang dans tout ce chapitre si particulièrement intéressant. Ceci est précisément en accord avec la doctrine de Hébreux 9, verset 10. Ce n'est qu'une nouvelle preuve de la divine harmonie du volume. Le sacrifice de Christ étant divinement parfait et accepté, il n'est pas besoin de le répéter. Son efficace est éternelle et divine. Mais Christ étant venu souverain sacrificateur des biens à venir par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de boucs et de taureaux et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifient pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 11-14. Remarquez la force de ces mots, une fois pour toutes et éternelle. Voyez comme il montre la perfection et l'efficace divine du sacrifice de Christ. Le sang a été versé une fois pour toutes et pour toujours. Penser à répéter cette grandeur, ce serait en nier la valeur éternelle et toute suffisante et la baisser au niveau du sang des taureaux et des boucs. Et encore, il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année, avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Hébreux 9, verset 23-26. Le péché a donc été aboli. Il ne peut pas être aboli et être en même temps sur la conscience du croyant. Ceci est clairement établi par les versets 27-26 qui terminent le chapitre. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à saluer à ceux qui l'attendent. Il y a quelque chose de merveilleux dans le soin patient avec lequel le Saint-Esprit discute le sujet tout entier. Il expose et développe la grande doctrine de la perfection du sacrifice, et cela de manière à convaincre l'âme et à soulager la conscience de son pesant fardeau. Telle est la surabondante grâce de Dieu qu'il a non seulement accompli l'œuvre de la rédemption éternelle pour nous, mais qu'il a, de la manière la plus patiente et la plus complète, discuté, raisonné, éprouvé toute la question, de façon à ne pas laisser le moindre lieu à aucune objection. Écoutons ces autres divins raisonnements et que l'Esprit les applique avec puissance au cœur du lecteur craintif. Car la loi ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent. Autrement n'eût-il pas cessé d'être offert, puisque ceux qui rendent le culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Mais il y a dans ces sacrifices chaque année un acte rémémoratif de péché, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Hébreux 10, verset 1-4. Mais ce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait jamais faire, le sang de Jésus l'a fait pour toujours. Tout le sang qui coule à jamais autour des autels d'Israël, les millions de sacrifices offerts selon les exigences du rite mosaïque, n'ont pas pu effacer une seule tache de la conscience, donner à Dieu qui haïssait le péché le droit de recevoir un pécheur. Il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 5. Remarquez le contraste. Dieu ne prenait pas plaisir à la série continuelle de sacrifices offerts sous la loi. Il laissait entièrement inaccompli ce qu'il avait à cœur de faire pour son peuple, savoir de les délivrer complètement du lourd fardeau du péché et de les amener à lui dans une parfaite paix de conscience et liberté de cœur. C'est ce que Jésus a fait par la seule offrande de son sang précieux. Il a fait la volonté de Dieu, et béni soit à jamais son nom, il n'a pas à recommencer son œuvre. Nous pouvons refuser de croire que l'œuvre soit faite, refuser de soumettre nos âmes à son efficace, d'entrer dans le repos qu'elle est propre à communiquer, de jouir de la sainte liberté d'esprit qu'elle est capable de procurer. Mais l'œuvre demeure offerte à notre foi selon son impérissable valeur devant Dieu. Les arguments de l'esprit touchant cette œuvre subsistent aussi dans leur force et dans leur clarté incontestable. Et ni les suggestions ténébreuses de Satan, ni nos propres raisonnements incrédules ne pourront jamais porter atteinte à aucune de ces vérités. Ils peuvent empêcher nos âmes de jouir de la grâce, et le font, hélas. Mais la vérité reste toujours la même. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 11-14. C'est en vertu du sang de Christ qu'une éternelle perfection nous a été communiquée. Et nous pouvons ajouter avec certitude que, grâce à ce sang aussi, nos âmes peuvent goûter et réaliser cette perfection. Nul ne doit s'imaginer qu'il honore l'œuvre de Christ ou qu'il respecte le témoignage de l'Esprit relatif à l'effusion et à l'aspersion du sang de Christ, aussi longtemps qu'il refuse d'accepter l'entière et parfaite rémission des péchés qui lui est proclamée et offerte par le sang de la croix. Ce n'est pas un signe de vraie piété ou de pure religion que de nier ce que la grâce de Dieu a fait pour nous en Christ et que l'Esprit éternel présente à nos âmes dans les pages du volume inspiré. Lecteur chrétien, investigateur inquiet, n'est-il pas étrange que lorsque la parole de Dieu nous présente à notre vue Christ assis à la droite de Dieu en vertu d'une rédemption accomplie, nous ne soyons, au fond, pas plus avancés que des Juifs qui avaient seulement un sacrificateur humain se tenant debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices. Nous avons un sacrificateur divin qui s'est assis à perpétuité. Il n'avait qu'un sacrificateur homme qui ne pouvait jamais, dans sa position officielle, s'asseoir du tout. Et cependant, sommes-nous, pour ce qui est de l'état d'esprit et de la condition réelle de l'âme et de la conscience, dans une situation meilleure qu'eux? Se peut-il qu'avec un sacrifice parfait sur lequel nous pouvons nous appuyer, nos âmes ne connaissent jamais le parfait repos? Le Saint-Esprit, ainsi que nous l'avons vu par diverses citations tirées de l'Épître aux Hébreux, n'a rien omis pour satisfaire nos âmes quant à la question de la complète abolition du péché par le précieux sang de Christ. Pourquoi donc ne pourriez-vous pas, en ce moment, jouir d'une paix de conscience parfaite et certaine? Le sang de Jésus n'a-t-il rien fait de plus pour vous que le sang d'un taureau ne faisait pour un adorateur juif? Il se peut cependant que le lecteur soit prêt à dire en réponse à toutes nos instances auprès de lui, « Je ne doute pas le moins du monde de l'efficace du sang de Jésus. Je crois qu'il purifie de tout péché. Je crois pleinement que tous ceux qui mettent simplement leur confiance dans ce sang sont parfaitement sauvés et seront éternellement heureux. » La difficulté pour moi ne repose pas là-dessus du tout. Ce qui me tourmente, ce n'est pas l'efficace du sang dans lequel je crois pleinement, mais l'intérêt personnel que je trouve dans ce sang dont je n'ai pas de témoignage satisfaisant. C'est là le secret de toutes mes difficultés. La doctrine du sang est aussi claire que le jour, mais la question de mon intérêt dans ce sang est entourée d'une désespérante obscurité. Or, si c'est là l'expression des sentiments du lecteur sur cet important sujet, elle prouve qu'il est de toute nécessité pour lui de réfléchir sérieusement sur le verset 4 de notre chapitre des Nombres. Il y verra que la vraie base de toute purification se trouve en ceci, que le sang de propitiation a été présenté à Dieu et accepté par lui. C'est une vérité très précieuse, mais peu comprise. Il est de toute importance que l'âme réellement inquiète ait une vue claire au sujet de l'expiation. Il nous est si naturel à tous d'être occupés de nos pensées et de nos sentiments sur le sang de Christ plutôt que du sang lui-même et des pensées de Dieu sur ce sang. Si le sang a été parfaitement présenté à Dieu, il l'a accepté, il s'est glorifié lui-même en abolissant le péché. Alors, que reste-t-il pour une conscience divinement exercée, sinon de trouver un repos parfait dans ce qui a satisfait à tous les droits de Dieu, en harmonie avec tous ses attributs, en établissant ce merveilleux terrain où peuvent se rencontrer un Dieu haïssant le péché et un pauvre pécheur perdu par le péché? Pourquoi introduire la question de mon intérêt dans le sang de Christ comme si cette œuvre n'était pas complète sans quelque chose du moi? Soit que nous l'appelions mon intérêt, mes sentiments, mon expérience, mon appréciation, l'usage que j'en fais. Pourquoi ne pas se reposer sur Christ seul? Cela serait réellement avoir un intérêt en lui. Mais dès le moment que le cœur est occupé de la question de son propre intérêt, dès le moment que l'œil se détourne de ce divin objet que la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous présentent, alors surviennent les ténèbres spirituelles et les perplexités. Puis l'âme, au lieu de se réjouir dans la perfection de l'œuvre de Christ, se tourmente en regardant à l'imperfection de ses pauvres sentiments. Or, nous avons ici, béni soit Dieu, le fondement stable de la purification pour le péché et de la paix parfaite pour la conscience. L'œuvre expiatoire est faite. Tout est accompli. Le grand antitype de la génie frousse a été égorgé. Il s'est livré à la mort sous le courroux et le jugement d'un Dieu juste, afin que tous ceux qui mettent simplement leur confiance en lui puissent connaître dans le secret intime de leurs âmes la purification divine et la paix parfaite. Nous sommes purifiés quant à la conscience, non point par les pensées sur le sang, mais par le sang lui-même. Nous devons insister là-dessus. Dieu lui-même a fait valoir notre titre, et ce titre se trouve dans le sang seul. Ô ce précieux sang de Jésus, comme il parle de paix profonde à toute âme troublée, afin qu'elle se repose simplement sur son éternel efficace. Pourquoi la doctrine bénie du sang est-elle si peu comprise et si peu appréciée? Pourquoi veut-on persister à y mêler quelque autre chose? Que le Saint-Esprit conduise tout lecteur inquiet à fixer son cœur et sa conscience sur le sacrifice expiatoire de l'agneau de Dieu. Si dans le sang nous avons la mort de Christ en sacrifice comme l'unique et parfaite purification du péché, dans les cendres, nous avons le souvenir et l'efficace de cette mort appliquée au cœur, par l'esprit, au moyen de la parole, afin d'enlever les souillures contractées dans notre marche journalière. Ceci ajoute une grande perfection et une grande beauté à notre type déjà si intéressant. Dieu n'a pas seulement pourvu au péché passé, mais aussi à la souillure actuelle, afin que nous puissions toujours être devant lui dans toute la valeur de l'œuvre parfaite de Christ. Il veut que ce soit comme entièrement net que nous foulions les parvis de son sanctuaire, les abords sacrés de sa présence. Or, non seulement lui-même nous voit ainsi, mais béni soit à jamais son nom, il voudrait que nous en fissions autant dans notre conscience intime. Il voudrait nous donner par son esprit, au moyen de la parole, un sentiment profond de notre pureté à ses yeux, afin que le courant de notre communion avec lui puisse couler limpide et sans obstacle. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, si nous négligeons cela, et que dans notre oubli nous touchions à des choses impures, Comment notre communion sera-t-elle rétablie? Seulement par l'enlèvement de la figure. Et comment doit-il s'effectuer? Par l'application à nos cœurs et à nos consciences de la précieuse vérité de la mort de Christ. Le Saint-Esprit produit le jugement de nous-mêmes et rappelle à notre souvenir la précieuse vérité que Christ a souffert la mort pour les souillures que nous contractons souvent si légèrement. Il ne s'agit point d'une nouvelle aspersion du sang de Christ, chose inconnue dans l'Écriture, mais du souvenir de sa mort apportée en puissance nouvelle au cœur contrit, apporté par le ministère du Saint-Esprit. Et on brûlera la génisse devant ses yeux. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate et les jettera au milieu du feu où brûle la génisse. Et un homme pur ramassera la cendre de la génisse et la déposera hors du camp en un lieu pur, et elle sera gardée pour l'assemblée des fils d'Israël comme eau de séparation. C'est une purification pour le péché. Versets 5 à 9. L'intention de Dieu est que ses enfants soient purifiés de toute iniquité et qu'ils marchent dans la séparation de ce présent siècle mauvais où tout est mort et corruption. Cette séparation se produit par l'action de la parole sur le cœur, par la jouissance du Saint-Esprit. Grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, verset 3-4. Et encore, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, verset 13-14. Il est remarquable de voir comment l'Esprit de Dieu lie constamment et intimement le parfait allègement de la conscience de tout sentiment de culpabilité à la délivrance de l'influence morale de ce présent siècle mauvais. Or, nous devrions avoir soin, bien-aimés lecteurs chrétiens, de maintenir l'intégrité de ce lien. Naturellement, nous ne pouvons le faire que par l'énergie du Saint-Esprit. Mais nous devrions chercher ardemment à comprendre et à montrer en pratique le lien béni qui existe entre la mort de Christ, considérée comme expiation pour le péché, puis comme motif et puissance morale pour notre séparation d'avec ce monde. Grand nombre d'enfants de Dieu ne vont jamais au-delà de la première vérité si même ils y arrivent. Beaucoup se contentent entièrement de la connaissance du pardon des péchés par l'œuvre expiatoire de Christ, sans réaliser leur mort au monde en vertu de la mort de Christ et de leur identification avec lui dans cette mort. Or, si, en réfléchissant à la mort de la génisse rousse par le feu, nous examinons ce mystique amas de cendres, que découvrirons-nous? On peut bien répondre, nous y trouvons nos péchés. En effet, grâce soit rendue à Dieu et au Fils de son amour, nous trouvons nos péchés, nos iniquités, nos fautes, notre profonde culpabilité, tout cela réduit en cendres. Mais n'y a-t-il rien de plus? Incontestablement. Nous y voyons la nature dans chaque période de son existence, du plus haut jusqu'au plus bas point de son histoire. Nous y voyons encore la fin de toute la gloire de ce monde. Le cèdre et l'hysope représentent la nature dans toute son étendue, depuis ce qu'elle a de plus infime à ce qu'elle renferme de plus élevé. Salomon parla sur les arbres depuis le cèdre qui est sur le Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. 1 Rois 4, verset 33. L'écarlate est regardée par ceux qui ont soigneusement examiné l'Écriture comme le type ou l'expression de la splendeur humaine, de la grandeur mondaine, de la gloire de ce monde, de la gloire de l'homme. Nous voyons donc dans les cendres, résidus de l'incinération de la génie, la fin de toute grandeur mondaine, de toute gloire humaine, et la mise de côté de la chair avec tout ce qui lui appartient. Ceci rend l'acte de brûler la génie profondément significatif et expose une vérité trop peu connue et trop vite oubliée quand elle est connue, vérité proclamée dans ces paroles mémorables de l'apôtre, mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Galates 6, verset 14. Tout en acceptant la croix comme base de la délivrance de toutes les conséquences de nos péchés et de notre pleine acceptation par Dieu, nous ne sommes tous que trop enclins à la refuser comme base de notre complète séparation du monde. Cependant, la croix nous a séparés à jamais de tout ce qui appartient au monde que nous traversons. Mes péchés sont-ils abolis? Oui, béni soit le Dieu de toute grâce. En vertu de quoi? En vertu de la perfection du sacrifice expiatoire de Christ, selon l'estimation de Dieu lui-même. Or, c'est précisément dans la même mesure que nous trouvons dans la croix notre délivrance de ce présent siècle mauvais, de ses maximes, de ses habitudes, de ses principes. Le croyant n'a absolument rien de commun avec cette terre dès qu'il réalise la signification et la puissance de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Cette croix a fait de lui un pèlerin et un étranger dans ce monde. Chaque cœur dévoué voit l'ombre profonde de la croix planer au-dessus de tout l'éclat, de toutes les vanités et de toutes les pompes de ce monde. Cette vue rendait Paul capable d'estimer comme des ordures le monde, ses dignités les plus hautes, ses formes les plus attrayantes, ses gloires les plus brillantes. Le monde m'est crucifié, dit-il, et moi au monde. Tel était Paul. Tel devrait être chaque chrétien. Un étranger sur la terre, un citoyen du ciel, et cela non seulement en principe ou en théorie, mais de fait et en réalité. Car aussi sûrement que notre délivrance de l'enfer est plus qu'un simple principe ou qu'une théorie, aussi sûrement notre séparation de ce présent siècle mauvais est un fait que notre devoir est de réaliser. Pourquoi donc n'insiste-t-on pas davantage sur cette grande vérité pratique auprès des chrétiens évangéliques? Pourquoi sommes-nous si lents à nous exhorter les uns les autres selon la puissance de séparation que comporte la croix du Christ? Si mon cœur aime Jésus, je ne chercherai pas une place, une portion ou un nom là où il n'a trouvé que la croix d'un malfaiteur. Cher lecteur, c'est la seule manière d'examiner la chose. Aimez-vous réellement Christ? Votre cœur a-t-il été touché et attiré par son merveilleux amour pour vous? S'il en est ainsi, n'oubliez pas qu'il a été rejeté par le monde. Rien n'a changé. Le monde est toujours le monde. Souvenons-nous qu'un des artifices spéciaux de Satan est de conduire les hommes qui ont trouvé le salut par Christ à méconnaître ou à renier leur identification avec lui dans sa réjection, à se prévaloir de l'œuvre expiatoire de la croix tout en s'établissant à leur aise dans un monde coupable d'avoir cloué Christ à cette croix. En d'autres termes, Satan conduit les hommes à penser et à dire que le monde du XXe siècle est totalement différent de celui du premier, que si le Seigneur Jésus était sur la terre maintenant, il serait traité bien différemment qu'il ne le fut alors, que le monde actuel n'est pas païen mais chrétien, et que cela a fait une différence telle que chaque chrétien peut accepter actuellement un droit de cité dans ce monde, y avoir un nom, une position, une part. Or tout cela n'est qu'un mensonge du grand ennemi des âmes. Le monde peut avoir modifié son costume, mais il n'a pas changé de nature d'esprit, de principe. Il hait Jésus aussi cordialement que lorsqu'il criait « ôte-le, crucifie-le ». Si nous jugeons le monde à la lumière de la croix de Christ, nous trouverons qu'il est, comme toujours, un monde mauvais, haïssant Dieu et rejetant Christ. Puissions-nous comprendre plus pleinement la vérité présentée par les cendres de la géniture. Alors notre séparation du monde et notre consécration à Christ seront plus énergiques et plus réelles. Veuille le Seigneur dans son extrême bonté qu'il en soit ainsi de tout son peuple dans ses jours de fausseté, de mondanité et de profession extérieure. Voyons maintenant l'emploi et la destination des cendres. Celui qui aura touché un mort, un cadavre d'homme quelconque, sera impur 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour, alors il ne sera pas pur le 7e jour. Quiconque aura touché un mort, le cadavre d'un homme qui est mort et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de l'Éternel, et cette âme sera retranchée d'Israël, car l'eau de séparation n'a pas été répandue sur elle. Elle sera impure, son impureté est encore sur elle. Verset 11-13. C'est une chose sérieuse d'avoir affaire avec Dieu, de marcher avec lui journellement au milieu d'un monde corrompu et corrupteur. Dieu ne peut tolérer aucune impureté en ceux avec lesquels il daigne marcher et dans lesquels il habite. Il peut pardonner et ôter les péchés. Il peut guérir, purifier et restaurer, mais il ne peut pas tolérer chez son peuple un mal qui n'est pas jugé. S'il le faisait, ce serait renier son nom et sa nature même. Cette vérité est à la fois profondément solennelle et bénie. C'est notre joie d'avoir affaire à celui dont la présence réclame et assure la sainteté. Nous traversons le monde où nous sommes entourés d'influences corruptrices. La vraie souillure ne se contracte pas maintenant en touchant un mort ou quelque os d'homme ou un sépulcre. Ces choses étaient, comme nous le savons, des types, des choses morales et spirituelles avec lesquelles nous sommes en danger d'être en contact à chaque instant. Nous ne doutons pas que ceux qui ont beaucoup à faire avec les choses de ce monde ne ressentent d'une manière pénible l'immense difficulté d'en sortir avec des mains pures. De là, la nécessité d'une sainte vigilance dans toutes nos habitudes et nos relations, de peur que nous ne contractions des souillures qui interromperaient notre communion avec Dieu. Il veut nous avoir dans un état digne de lui-même. Soyez saints, car je suis saint. Mais le lecteur sérieux dont l'âme entière soupire après la sainteté peut demander. Que devons-nous donc faire s'il est vrai que nous soyons ainsi environnés de tous côtés d'influences corruptrices et si nous sommes tellement enclins à contracter cette souillure? De plus, s'il est impossible d'avoir communion avec Dieu lorsque nos mains sont impures et que notre conscience nous condamne, que devons-nous faire? Nous répondons, avant tout, soyez vigilants. Comptez beaucoup et sérieusement sur Dieu. Il est fidèle et miséricordieux. Un Dieu qui écoute la prière et l'exauce, un Dieu libéral qui ne fait pas de reproches. Il donne une plus grande grâce. Ceci est positivement un blanc-seing sur lequel la foi peut inscrire la somme qu'elle désire. Le désir réel de votre âme est-il d'avancer dans la vie divine, de croître dans la sainteté personnelle? Alors, prenez garde que vous ne marchiez même une seule heure en contact avec ce qui souille vos mains, blesse votre conscience, contriste le Saint-Esprit et détruit votre communion. Soyez résolus, ayez un cœur entier, renoncez immédiatement à toute chose impure, quoi qu'il en coûte, renoncez-y. Quelque perte que cela entraîne, abandonnez-la. Aucun intérêt mondain, aucun avantage terrestre ne peut compenser la perte d'une conscience pure, d'un cœur tranquille et de la jouissance de la clarté de la face de votre Père. N'êtes-vous pas convaincu de cela? Si vous l'êtes, appliquez-vous à réaliser votre conviction. Il se peut encore qu'on demande, que doit-on faire lorsqu'on a réellement contracté une souillure? Comment doit-on l'enlever? Écoutez le langage figuré du chapitre 19 des Nombres. Et on prendra pour l'homme impur de la poudre de ce qui a été brûlé pour la purification et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau et en fera aspersion sur la tente et sur tous les ustensiles et sur les personnes qui sont là et sur celui qui aura touché l'ossement ou l'homme tué ou le mort ou le sépulcre. Et l'homme pur fera aspersion sur l'homme impur le troisième jour et le septième jour et il le purifiera le septième jour et il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et le soir il sera pur. Verset 17-19. Il y a une double action présentée dans les versets 12 et 19, savoir l'action du troisième jour et celle du septième jour. Toutes deux étaient essentiellement nécessaires pour enlever la souillure contractée dans la marche par le contact avec les diverses formes de la mort spécifiée plus haut. Or, que figurait cette double action? Qu'est-ce qui y répond dans notre histoire spirituelle? Sans doute ceci. Lorsque, par manque de vigilance et d'énergie spirituelle, nous touchons la chose impure et que nous sommes souillés, nous pouvons l'ignorer. Mais Dieu connaît tout à ce sujet. Il s'en inquiète pour nous et il veille sur nous. Non pas béni soit son nom comme un juge irrité ou comme un censeur rigide, mais comme un tendre père qui ne nous imputera jamais rien parce que tout a été dès longtemps imputé à celui qui mourut à notre place. Néanmoins, il ne manquera pas de nous le faire sentir profondément et vivement. Il sera un censeur fidèle de la chose impure et il peut la réprouver d'autant plus énergiquement qu'il ne nous en tiendra jamais compte. Le Saint-Esprit nous rappelle notre péché, ce qui nous cause une inexprimable angoisse de cœur. Cette angoisse peut continuer quelque temps, elle peut durer quelques instants ou bien des jours, des mois ou des années. Nous avons connu un jeune chrétien qui fut malheureux pendant 3 ans pour avoir fait une excursion avec des amis mondains. Nous croyons que cette opération convaincante du Saint-Esprit est représentée par l'action du 3e jour. Il nous rappelle notre péché, puis il nous rappelle et applique à nos âmes par le moyen de la parole écrite la valeur de la mort de Christ, comme ce qui a déjà répondu à la souillure que nous contractons si aisément. Ceci répond à l'action du 7e jour, enlève la souillure et rétablit notre communion. Et qu'on se souvienne bien que nous ne pouvons jamais nous débarrasser de la souillure d'aucune autre manière. Nous pouvons chercher à oublier la blessure ou laisser au temps le soin de l'effacer de notre mémoire. Il n'y a rien de plus désastreux que de traiter ainsi la conscience et les droits de la sainteté. Cela est aussi insensé que dangereux, car Dieu, dans sa grâce, a pleinement pourvu à l'enlèvement de l'impureté que sa sainteté découvre et condamne, de telle sorte que, si l'impureté n'est pas ôtée, la communion est impossible. Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. La suspension de la communion d'un croyant est ce qui répond au retranchement d'un membre de la congrégation d'Israël. Le chrétien ne peut jamais être retranché de Christ, mais la communion peut être interrompue par une seule pensée coupable. Il faut donc que cette pensée coupable soit jugée et confessée, afin que la souillure soit enlevée et la communion rétablie. Chers lecteurs, nous devons conserver une conscience pure et maintenir la sainteté de Dieu. Autrement, nous ferons bientôt naufrage quant à la foi et nous tomberons tout à fait. Que le Seigneur nous donne de marcher paisiblement et avec soin dans la vigilance et la prière jusqu'à ce que nous ayons déposé nos corps de péché et de mort et que nous soyons entrés dans le séjour brillant et béni où le péché, la souillure et la mort sont inconnus. En étudiant les ordonnances et les cérémonies de l'économie lévitique, rien n'est plus frappant que le soin jaloux avec lequel le Dieu d'Israël veillait sur son peuple afin qu'il fût préservé de toute influence corruptrice. De jour ou de nuit, qu'il fût éveillé ou qu'il dormît, au dedans ou au dehors, au sein de la famille ou dans la solitude, ses yeux étaient sur eux. Il veillait à leur nourriture, à leurs vêtements, à leurs habitudes et à leurs arrangements domestiques. Il les instruisait soigneusement de ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas manger ou porter. Il leur manifestait même distinctement sa pensée pour ce qui regardait l'attouchement et le maniement des choses. En un mot, il les avait entourés de barrières amplement suffisantes, si seulement ils y avaient pris garde, pour éviter le courant de la souillure auquel ils étaient exposés de tous côtés. En tout ceci, nous voyons évidemment la sainteté de Dieu. Mais nous y voyons tout aussi clairement sa grâce. Si la sainteté divine ne pouvait souffrir aucune souillure sur le peuple, la grâce divine pourvoyait amplement à la purification. Ces soins se montrent dans notre chapitre sous deux formes, le sang expiatoire et l'eau d'aspersion. Précieuses ressources. Si nous ne connaissons pas les immenses provisions de la grâce divine, les droits suprêmes de la sainteté de Dieu seraient suffisants pour nous écraser. Tandis qu'étant assurés de la grâce, nous pouvons nous réjouir de tout notre cœur dans la sainteté. Un Israélite pouvait frémir en entendant ces paroles, celui qui aura touché un mort, un cadavre d'homme quelconque sera impur 7 jours. Et encore, quiconque aura touché un mort, le cadavre d'un homme qui est mort et ne se sera pas purifié, a rendu impur le tabernacle de l'Éternel, et cette âme sera retranchée d'Israël. De telles paroles pouvaient en vérité terrifier un cœur. Mais alors, les cendres de la génisse brûlée et l'eau d'aspersion lui présentaient le mémorial de la mort expiatoire du Christ, appliqué au cœur par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour, et le septième jour il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le troisième jour, alors il ne sera pas pur le septième jour. Observons qu'il ne s'agit ni d'offrir un nouveau sacrifice, ni d'une nouvelle application du sang. Il est important de voir et de comprendre clairement cela. La mort de Christ ne peut pas être répétée. Christ ayant été ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu, Romains 6, verset 9. Nous sommes, par la grâce de Dieu, au bénéfice de la pleine valeur de la mort de Christ. Mais, étant environnés de toutes parts par les tentations et les pièges auxquels répondent les tendances de la chair qui est encore en nous, ayant de plus un adversaire puissant, toujours aux aguets pour nous surprendre et nous conduire hors du sentier de la vérité et de la pureté, nous ne pourrions pas avancer un seul instant si notre Dieu, dans sa grâce, n'avait pourvu à toutes nos nécessités par la mort précieuse et la médiation toute-puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Christ ne nous a pas seulement lavés de tous nos péchés et réconciliés avec un Dieu saint, mais encore, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous, et il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est toujours dans la présence de Dieu pour nous. Il y est notre représentant et nous maintient dans la divine intégrité de la position et de la relation dans lesquelles sa mort expiatoire nous a placés. Notre cause ne peut jamais être perdue entre les mains d'un tel avocat. Il faudrait qu'il cessât de vivre avant que le plus faible de ses saints pût périr. Nous sommes identifiés avec lui et lui avec nous. Or donc, lecteur chrétien, quel devrait être l'effet pratique de toutes ces grâces sur nos cœurs et sur notre vie? Lorsque nous pensons à la mort et à l'incinération, au sang et aux cendres, au sacrifice expiatoire et à l'intercession du sacrificateur et de l'avocat, quelle influence cela devrait-il exercer sur nos âmes? Comment cette pensée devrait-elle agir sur nos consciences? Nous conduira-t-elle à tenir pour rien le péché? Aura-t-elle pour effet de nous rendre légers et frivoles dans nos voies? Ah, Dieu ne plaise! Nous pouvons être certains de ceci, que l'homme qui peut voir dans les riches ressources de la grâce divine une excuse pour la légèreté de conduite ou la frivolité d'esprit connaît très peu ou pas du tout la vraie nature de la grâce, son influence et ses ressources. Pourrions-nous nous imaginer un seul instant que les cendres de la génisse ou l'eau d'aspersion pouvaient avoir pour effet de rendre un Israélite insouciant quant à sa marche? Assurément non. Au contraire, le fait même d'une telle précaution contre la souillure devait lui faire sentir combien c'était une chose sérieuse de la contracter. Le tas de cendres déposées dans un lieu net offrait un double témoignage. Il témoignait de la bonté de Dieu et de la nature odieuse du péché. Il déclarait que Dieu ne pouvait pas souffrir l'impureté au milieu de son peuple, mais il déclarait aussi que Dieu avait pourvu au moyen d'enlever la souillure. Il est tout à fait impossible que la doctrine bénie du sang répandu, des cendres et de l'eau d'aspersion puisse être comprise et goûtée sans qu'elle produise une sainte horreur du péché dans toutes ses formes proscrites. Et nous pouvons affirmer en outre que quiconque a jamais ressenti l'angoisse d'une conscience souillée ne peut contracter légèrement la souillure. Une conscience pure est un trésor trop précieux pour qu'on s'en dessaisisse à la légère. Une conscience souillée est un fardeau trop lourd pour qu'on s'en charge avec légèreté. Mais béni soit le Dieu de toute grâce, il a pourvu à tous nos besoins d'une manière parfaite, et non de manière à nous rendre insouciants, mais vigilants. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Puis il ajoute, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, et lui a la propitiation pour nos péchés. Et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. 1 Jean 2, verset 1-2. Encore un mot sur les derniers versets de ce chapitre. Et ce sera pour eux un statut perpétuel, et celui qui aura fait aspersion avec l'eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l'eau de séparation sera impur jusqu'au soir. Point de suspension. et celui qui l'aura touché sera impur jusqu'au soir. Verset 21-22. Au verset 18, nous avons vu qu'il fallait une personne pure pour faire aspersion sur une personne impure. Ici, nous voyons qu'on était rendu impur par l'acte d'asperger un autre. Réunissant ces deux choses, nous apprenons, comme quelqu'un l'a dit, que celui-là est souillé qui a affaire avec le péché d'autrui, bien qu'il y touche par devoir et pour purifier son prochain. Il n'est point coupable comme l'autre, il est vrai, mais nous ne pouvons pas toucher au péché sans être souillés. Nous apprenons encore que pour amener un autre à jouir de la vertu purifiante de l'œuvre de Christ, nous devons en jouir nous-mêmes. Quiconque avait appliqué l'eau d'aspersion à d'autres devait laver ses vêtements et lui-même avec de l'eau. Puis le soir il était pur, verset 19. Que nos âmes saisissent bien cela. Puissions-nous vivre habituellement dans le sentiment de la pureté parfaite où la mort de Christ nous a introduits et dans laquelle son œuvre de sacrificateur nous maintient. N'oublions jamais que le contact du mal suive. Il en était ainsi sous l'économie mosaïque et il en est encore ainsi maintenant.